Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, il est 8h48, les grands débats ce matin. Lydia Guérousse et Amine Mbarki, élu PS de Montreuil, enseignant à Polytechnique.
Oui, et vous également au 0826-300-300, vous pouvez nous appeler pour réagir sur tous les sujets de l'actualité. Dans un instant, on verra cette idée du droit de vote à 16 ans, abaisser à 16 ans pour la présidentielle notamment. Alors ce serait sans doute pas pour cette fois-ci, peut-être pour plus tard, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Sur les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas très favorable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, à 80%. On y reviendra. Et puis à cette occasion, on évoquera aussi la campagne des partis traditionnels, le PS, comme les Républicains avec vous, où ça patine un petit peu. On reviendra aussi sur le nucléaire. Il faut le relancer. Là, c'est ce qu'on a vu avec RTE hier et ses publications. Et puis, il y a cette séquence qui fait toujours quand même beaucoup causer. Vue hier dans l'émission de Jean-Marc Morandini, avec Éric Zemmour, dans une nouvelle émission, qui va dans la rue, à Drancy. Il croise des habitants plus ou moins choisis et donc cette femme où il l'interpelle pour qu'elle enlève son voile, enfin son foulard plus précisément, voile ou foulard d'ailleurs,
oui, mais qu'importe, c'est elle qui lui propose, elle lui lance un défi,
oui c'est ça, en enlevant la cravate quoi,
exactement, hein,
voilà c'est ça. Amine Mbarki, qu'est-ce que vous avez pensé? On vous a entendu déjà et vous reviendrez sur votre édito, hein, Lydia Guérousse, tout à l'heure. Amine Mbarki, cette séquence, qu'est-ce qu'elle dit pour vous?
D'abord, je trouve assez consternant sur la forme, dire qu'on va aller face à la rue, alors qu'en vérité, il était plutôt dos à ses gardes du corps. Et vouloir faire le spectacle en utilisant une ville de banlieue parisienne pour diffuser ses propres idées, je trouve ça assez...
Mais Anne Hidalgo, elle le fera peut-être aussi dans ce cas-là.
C'était du spectacle, c'était pas ni un meeting politique, ni une conversation posée avec un certain nombre d'habitants. On l'a bien vu d'ailleurs qu'il y avait une certaine partie qui était plus ou moins organisée, je ne sais pas. En tout cas, c'était du spectacle, et c'est dommage et consternant pour l'image que Éric Zemmour veut renvoyer de la banlieue parisienne.
Ouais.
Et puis après, sur le fond, dire qu'on va pointer du doigt, stigmatiser des personnes parce qu'elles portent le foulard de manière tout à fait légale sur l'espace public, quel sens il veut donner à la République qu'il veut porter pour demain? Quel sens à cette candidature à l'élection présidentielle? On est face à quelqu'un qui veut repousser les personnes qui ne sont pas voilées. Il dit d'ailleurs qu'il ne sera pas président des femmes voilées. Il y a quelques jours, il disait qu'il n'était pas le président des gens qui portent un nom différent. Il y a quelques jours, il disait qu'il ne serait pas le président des personnes transgenres ou des personnes homosexuelles. Bref, il va être le président de la France sans les Français. Je trouve ça complètement dommage.
Oui, Lydia Guérousse.
Alors moi, je reconnais un certain courage quand même à Éric Zemmour d'avoir accepté cette émission qui a été proposée par Jean-Marc Morandini. Et je pense que c'est Jean-Marc Morandini et ses équipes qui ont sélectionné les différentes séquences, les différents moments et les différentes personnes qui ont pu intervenir et échanger avec Éric Zemmour. Éric Zemmour ne caricature pas la banlieue française. C'est une ville de banlieue française telle qu'est aujourd'hui et telle que sont de nombreuses villes de banlieue.
Précisons
et
on c'est, ne peut c'est pas la ville où... Où a vécu Éric Zemmour.
J'allais y venir. C'est une ville où Éric Zemmour est né à Montreuil et a grandi à Drancy. Alors à l'époque, c'était un petit peu moins communautarisé qu'aujourd'hui. Cette ville, comme tant d'autres, ont connu des évolutions qui sont malheureuses. Communautarisme, islamisme galopant, etc. Avec l'ensemble des symboles prosélytes que ça véhicule. Et puis, pour revenir sur cette séquence avec cette femme voilée, c'est elle qui lance ce défi, et je trouve qu'elle a fait preuve d'une certaine audace quand même, de proposer comme ça un futur candidat qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle, de retirer sa cravate contre son voile. L'un et l'autre n'ont aucun rapport, je n'avais pas très bien compris initialement. L'un est religieux et prosélyte, l'autre est juste un vêtement masculin dans les pays occidentaux, mais il s'est prêté au jeu très honnêtement, je pensais qu'elle ne retirerait pas son voile, et elle l'a fait aussi parce qu'elle a indiqué que c'était absolument pas un vêtement religieux et que c'était un bout de tissu. Donc si ce n'est pas important, pourquoi ne pas le retirer, puisque le voile ne fait pas la religion, le voile ne fait pas la foi et la sincérité de la foi des personnes. En revanche, c'est un marqueur politique, c'est un marqueur aussi de volonté civilisationnelle.
Le
il y a
voile...
un projet derrière tout comme ça crée des crispations, juste pour terminer, pourquoi ne pas le retirer? Et je voudrais revenir sur les propos du sénateur Kanner, que j'ai trouvé absolument scandaleux, et je dirais même qu'il met en danger cette femme en parlant parlant d'apostasie, car dans l'islam, l'apostasie est un crime. Mmh. Et dire que parce qu'elle a retiré son voile et accusé Zemmour de l'avoir forcé en quelque sorte à le retirer, ce qui était faux, hein, c'est encore une fois un défi lancé par cette femme, je trouve qu'il met en danger cette femme.
Oui, qui est menacée de mort, c'est ce que je lui ai dit sur les réseaux.
Qu'utilise un sénateur de la République. Il ne s'agissait pas, absolument pas, d'apostasie.
Oui, Amine Mbarki.
Et on voit bien que dans cette séquence, on essentialise une personne à travers uniquement sa religion. On ne fait que porter un regard sur elle parce qu'elle porterait le voile. Alors que chaque individu a sa raison de porter le voile. Il n'y a pas que des raisons politiques, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons familiales, il y a des raisons qui sont propres et privées. Et elle n'a en aucun cas besoin de retirer son voile, y compris parce qu'elle est dans l'espace public. Là, on est face dans une séquence où vraiment, on essaye de montrer une personne uniquement par un prisme. On essaye de montrer la banlieue parisienne uniquement par un prisme, alors qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Et encore une fois, pendant 24 heures, le débat public va tourner autour d'une rencontre spectacle. Et moi,
ça fait partie.
Parce que c'est pas un vrai débat sur le voile. On aurait pu avoir un vrai débat sur le voile.
Ça relance probablement le débat sur le voile et le foulard. Quoi.
Non, parce qu'on entre dans le sujet par, encore une fois, je le répète, par quelque chose qui est de l'ordre du spectacle, du divertissement. Pour moi, ce n'est que ça.
Ouais. C'est même presque de
l'organisation.
Ça a
même été organisé. C'est-à-dire que là, de ce qu'on en regarde, c'est que
là, on ne sait même
pas si c'est exprès ou pas.
On ne sait même pas. Si cette personne-là n'a pas été finalement organisée avec l'émission pour se mettre un peu en spectacle. On ne le sait même pas.
Donc il y a un vrai sujet. Elle s'est rendue sur une autre émission, notamment chez C8, chez Cyril Hanouna, où elle a indiqué très clairement, il n'y a pas de complot derrière. Hein. Elle a indiqué qu'elle le portait depuis peu. Encore une fois, c'est elle qui a proposé ce défi à Éric Zemmour. Je crois qu'elle sera à 10h30 chez Jean-Marc Morandini sur CNews. Donc cette femme, en fait, porte son voile, elle l'assume. Mais ce que se dit cette séquence aussi, c'est qu'il y a une islamisation qui est galopante. Il y a des signes prosélytes qui envoient un message et un symbole qui est contraire à nos valeurs. Et on ne parle pas que de laïcité, on parle aussi de la place et de l'importance qu'on donne à l'égalité entre les hommes et les femmes et de marqueurs de nos civilisations. Et moi, je regrette, je n'accepterai pas que la France devienne un pays où les femmes doivent se cacher les cheveux pour être respectables et qu'on avance l'idée d'une culture ou d'un folklore, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas l'image que la femme française doit avoir. On doit aussi faire respecter cela. C'est une question aussi d'identité française au-delà des questions de laïcité.
Ce que je regrette, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de la philosophie et de la nature de la fameuse loi de 1905.
On n'est pas dans la loi de 1905.
Oui, mais on en s'éloigne de plus en plus. Je vous ai laissé parler, j'ai essayé de développer mon propos. On s'en éloigne de plus en plus, c'est-à-dire qu'à force de vouloir pointer du doigt certaines personnes, à force de vouloir faire d'un foulard un instrument politique, soi-disant politique, de vouloir faire ça, on s'éloigne de la philosophie de la loi 1905, qui est la religion dans le domaine privé et la religion en dehors de l'espace public. L'espace public dans le sens les lieux publics, les bâtiments publics, les écoles, les domaines, les bâtiments, bref. On est sur une séparation qui est pourtant nette. Ouais. Et là, on veut revenir dessus à chaque fois, sous prétexte qu'il y aurait une soi-disant islamisation. Je suis élu de banlieue, je ne vois pas ça.
Oui.
Je ne vois pas ça.
Elle est de moins en moins nette, la séparation.
Non, ce n'est pas une question de moins en moins nette. C'est une question très simple. S'il y a du prosélytisme, s'il y a une volonté d'utiliser la religion à un défunt de nuire à d'autres, il faut le combattre. Là, en l'occurrence, elle est dans son espace privé, elle est dans l'espace... Elle marchait dans la rue, elle n'a en aucun cas émis un quelconque message politique, si ce n'est exprimer sa foi personnelle pour elle et pour elle-même.
Allez, on va continuer dans un instant, juste après une courte pause. Et vous, vous pouvez agir. Est-ce que vous pensez que le voile est un signe politique, comme l'a dit tout à l'heure Lydia Guérous, ou alors non, allons et respectons la loi de 1905, comme le dit Amine Mbarki, en fait, à l'instant. Vous pouvez réagir, 0826 300 300, et puis on viendra aussi sur cette idée d'abaisser le droit de vote à l'âge de 16 ans. Dans un instant, vous pouvez réagir, 0826 300 300, on vous attend.
9h06.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, on va continuer les grands débats du matin. Amine Embarki, l'un des porte-parole du PS qui est avec nous, élu de Montreuil, en région parisienne. Lydia Guirous également, avec nous, éditorialiste à Sud Radio. Donc, on va revenir dans un instant sur ce droit de vote à 16 ans, éventuellement. La proposition avancée, c'est dans le débat depuis longtemps, mais là, Anne Hidalgo, peut-être pour faire redécoller sa campagne, l'a lancée ce week-end. On va la voir. Et puis, il y a toujours ce débat après la séquence d'hier d'Éric Zemmour avec cette femme voilée. Vous disiez tout à l'heure que loi de 1905, on doit laisser en fait dans la sphère privée, sauf que c'est pas dans l'espace public, hein, Amine Embarki, évidemment, le voile là, mais quasi de plus en plus en fait dans la rue, quoi, aussi. C'est peut-être pour ça que certains Français ressentent une forme de provocation, non ?
Écoutez, moi je trouve déjà très compliqué de voir un homme demander à une femme de retirer son voile. Vous savez, je suis féministe, je le revendique. Et je considère que la séquence qu'on vient de voir, elle est catastrophique pour l'image des femmes. Elle est catastrophique parce qu'on est en train de prendre une séquence, un moment, où on oblige une femme à retirer un vêtement qui lui appartient. Je trouve ça déplorable. Ouais. La première chose, Et puis, deuxième point. Moi, je pense à toutes ces femmes de banlieue qui regardent la télévision, comme tout le monde, et qui se disent, mais à quoi on assiste là ? On a le droit de porter le voile si on souhaite le porter. Et comme élu de banlieue, je peux vous garantir qu'il n'y a pas, dans 97% des cas, une once de volonté politique d'affirmation d'un quelconque islamisme. C'est culturel, c'est sûrement aussi un peu religieux, mais pas religieux dans le sens prosélyte. Dans le sens, c'est une vie personnelle qu'on mène, comme d'autres religions portent d'autres vêtements. Et il est dans la liberté de chacun de pouvoir le faire. C'est la stricte application de la loi de 1905. Si elle est hors la loi, elle doit être condamnée. Si elle n'est pas hors la loi, elle doit être laissée tranquille.
Oui, Lydia Guirous, alors, sur cette argumentation et démonstration d'Amine Embarki.
Je voudrais le remercier pour cette belle démonstration de déni de réalité et de refus de voir en fait qu'il y a une islamisation. Le problème des femmes de banlieue, c'est pas parce que vous dites qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a pas, monsieur. Donc. Et je pense que se promener dans la rue les yeux véritablement ouverts vous permettra peut-être de voir qu'il y a une islamisation galopante et qui touche y compris aujourd'hui les petites filles. Et je parle de petites filles qui ont parfois à peine 5 ou 6 ans. Voilà une réalité que vous ne voulez pas voir, mais que tous les Français voient dans les grandes villes comme dans les petites villes. Et vous pouvez même aller sur Internet, vous avez des vêtements qui sont vendus à partir de 12 mois, des vêtements islamistes.
Si donc c'est là, Internet votre référence, j'en suis désolé.
Internet est une référence, les réseaux sociaux peuvent l'être aussi. La réalité, aller dans les hôpitaux, les salles d'attente, aller dans les écoles avec les femmes accompagnatrices qui sont voilées et qui posent un problème de prosélytisme pour des enfants qui sont exposés à un vêtement qui est un vêtement prosélyte, qui marque quand même une soumission des femmes et un devoir d'effacement des femmes pour être comme respectable. Si ça, vous ne voulez pas le voir, votre féminisme ne vaut absolument rien. C'est juste une posture pour vous permettre de passer d'autres messages, des messages qui peuvent parfois être ambigus. Personne n'oblige
ça,
les femmes dans les banlieues, ce qu'elles aimeraient, celles qui sont obligées aujourd'hui parce qu'il y a un environnement qui fait qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se voiler pour être respectables et elles doivent raser les murs. Ce qu'elles aimeraient, c'est que finalement, on leur dise « Vous pouvez retirer le voile sans avoir de crainte. Vous pouvez retirer le voile sans avoir la crainte d'être menacé, sans être mis au banc de cette société, sans être considéré comme une femme facile. » Et il y a tellement de témoignages de jeunes filles que je voudrais qu'on entende et qu'on n'oublie pas. Et c'est celle-là qui compte. Oui. Et dans la séquence d'hier, au-delà de la laïcité, parce que la laïcité souvent est brandie par certains pour dire c'est la neutralité de l'État. Et en fait, c'est le service minimum de la laïcité qui cherche. Il y a une question de mode de vie et il y a une question d'assimilation à la France, à ses valeurs, à son mode de vie, à une culture. Et là, moi, ce que je retiens de cette femme et de son parcours, au final, mais c'est au-delà de cette femme. Elle a été naturalisée sans être voilée. Et je crois 10 ans après, la voilà voilée. Et elle démontre aussi par son parcours qu'il y a une forme de désintégration qui s'installe en France parce qu'il y a une réislamisation des populations d'origine maghrébine.
Je vous voyais hocher la tête.
Non, mais je suis consterné par ce que j'entends. Quand je fais mes permanences d'élu, je pense être au plus proche du terrain. Je ne vois absolument pas ça. Qu'il y ait des cas... particulier peut-être. Mais vous savez, quand on a un peu l'expérience de terrain, qui semblerait vous l'avez pas, on ne voit pas ça.
Quand vous
dites que c'est sur Internet ou les réseaux sociaux que vous faites votre opinion, effectivement, vous pouvez avoir l'impression que l'islamisation gagne l'islamisation de la France. Ce que vous parliez des femmes de banlieue, oui, les femmes de banlieue, elles aimeraient tout simplement qu'on ne parle pas d'elles, qu'on les laisse tranquilles. Et là, on revient dessus à chaque fois sur le débat sur ce qu'elles portent. À chaque fois, on est en train de dire, que ce soit pour le voile ou pour sur d'autres types, on est en train de dire comment les femmes doivent s'habiller. Eh ben non, moi, quand je dis que je suis féministe, je le suis jusqu'au bout, et ça vaut pour tous les vêtements, y compris les vêtements religieux, tant qu'on respecte la loi, et ici, la loi a été respectée.
Juste un petit mot, vous avez dit quelque chose qui est choquant, vous avez dit qu'on l'a obligée dans cette séquence, je crois
absolument
qu'elle n'a pas été obligée.
Non,
en fait.
J'ai mis une hypothèse, parce que... Je veux bien dire que je n'ai pas le fond de l'histoire, qu'elle aurait été déjà approchée par l'équipe avant. C'est tout ce que je dis.
Mais elle n'a pas été obligée.
Très bien. Entendu.
Alors,
de toute façon, ce n'est pas le cas d'espèce qui nous intéresse, c'est la situation générale.
0826 300 300, qui est avec nous.
Christian, qui nous appelle
d'Anglette. Oui. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde.
Oui.
J'avais oublié... Cécile,
mais elle ne peut plus parler. Oui. Bon, allez-y Christian.
Oui, alors je vous appelle déjà d'Anglette.
Oui.
Voilà. Je suis stupéfait par le ce que monsieur, c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs, par le monsieur socialiste.
Amine Embarki.
Amine Embarki.
Peut-être Patrick Kanner tout à l'heure, quoi, qui est...
Non, mais c'est bien la personnage. Je suis stupéfait. D'entendre aussi autant de bêtises qui peuvent être dites. C'est simple, hier, quand on écoute l'émission qui est faite par Mandini, la dame, elle est simple, hein, il a demandé d'enlever son voile, il lui a demandé, elle, l'enlever sans qu'on l'oblige. On n'a pas préparé avant ce genre de cinéma. Mais je ne peux pas entendre de dire aujourd'hui que de porter le voile n'est pas un signe de quelque chose. Alors, aujourd'hui, il est religieux. On le sait. Pourquoi aujourd'hui combattre ce genre de choses? Alors, jusqu'à aller les féministes, les machins, les éboueurs aussi, je ne sais pas, pourquoi pas. C'est, des fois, quand j'écoute des émissions telles que celle-ci, et que j'entends un monsieur dire des trucs comme ça, je suis sur le terrain.
Christian, Amine va vous répondre, mais allez-y.
Mais moi, je vais aller au bout. Aujourd'hui, nous sommes dans le système d'élection. Aujourd'hui, on le sait très très bien que la gauche, le socialiste et le reste font de l'appel de pied à tous les gens qui sont aujourd'hui du côté musulman. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas des enfants, les auditeurs, n'est-ce pas? Il faut arrêter d'avoir ce genre de conversation. C'est inadmissible, pour moi en tout cas. Oui. On dit la vérité, on regarde la vérité. Ça se lit partout, ça se sait partout. Et si monsieur il est sur le terrain, eh ben, comme en ce moment c'est un petit peu le truc des ophtalmos, ben, on va lui payer une place d'ophtalmo parce qu'on vient bien regarder.
Bon, vous avez de l'humour. Vous avez un peu d'humour. Et Amine Embarki aussi.
Non, merci pour votre réaction. Vous savez, c'est justement parce que je suis sur le terrain que je sais quels sont les sujets que les femmes de banlieue évoquent au quotidien. C'est la question des salaires, c'est la question des transports, c'est la question du logement, c'est la question du quotidien. Ça n'a jamais été la question du voile. Ça n'a jamais été la question du comment est-ce que je dois m'habiller ou comment les autres doivent s'habiller. Là, on est en train de mettre en avant, à mon avis, un sujet qui est un épiphénomène sur une banlieue en particulier, parce que Éric Zemmour est la personnalité qu'on connaît. Mais derrière, venir expliquer que tous les problèmes de banlieue viennent de là. Venir expliquer que c'est ça qu'il faut faire...
Il n'a pas forcément dit ça.
Bah, écoutez, ce qu'on retient de la séquence, il va en banlieue, on ne parle que de ça.
Ouais,
je suis désolé. Donc, on pense que ça n'y a que ça.
Ouais,
bah, je suis désolé, ce n'est pas ça.
C'est tellement pas un problème que dans une autre partie de l'émission, puisque l'islamisme n'est pas un problème, puisque tous ces sujets n'existent pas...
Je n'ai pas dit que l'islamisme n'est pas un problème. Je n'ai pas dit ça.
Monsieur, qui, lui, à travers ses quelques heures de permanence, connaît l'état entier de la France et de l'ensemble des préoccupations des Français, notamment des banlieues, eh bien, dans une autre séquence, donc, il se rend dans une boucherie et il demande est-ce que c'est une boucherie française. Monsieur dit non, musulmane. Donc, et puis il dit, ah oui, peut-être un petit peu plus loin, il y a une boucherie française. Donc là, on voit aussi à quel point, finalement, non, il n'y a pas de problème d'islamisation, il n'y a pas de problème de communautarisme, il n'y a pas de problème de prosélytisme. Tout ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. La France se porte merveilleusement bien et on n'a aucune difficulté avec ces sujet-là.
On n'arrivera pas à vous mettre
enfin
d'accord,
les
mais le débat
non,
mais est...
Je vois à quel point on confond islam et islamisme. On ne parle pas des mêmes choses. On est en train complètement de mélanger tous les sujets.
Mais bon, voilà, après on comprend pourquoi est-ce que les sujets sont mal abordés. Pourquoi la gauche est dans un état aussi
lamentable. Chacun, évidemment, a ses arguments. Autre sujet, avant de passer à l'environnement tout à l'heure aussi, cette proposition donc d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Amine Mbarki, donc c'est une proposition d'Anne Hidalgo. Ouais. Pourquoi donc ?
Vous savez, à 16 ans, on est déjà responsable sur beaucoup de sujets.
Ouais.
On a l'âge pour créer une association, on a l'âge pour payer les impôts, on a l'âge pour avoir un contrat de travail en bonne et due forme. On a un certain nombre de possibilités d'être engagé dans un syndicat. Donc c'est vraiment un âge pivot où on rentre dans une forme de citoyenneté. Donc il n'y avait que le droit de vote en vérité qui n'était pas aligné sur un ensemble de choses. Il y a aussi la majorité pénale qui commence à 16 ans. Donc
c'est à 16 ans.
Ce que je veux dire, c'est que c'est à l'âge de 16 ans qu'un certain nombre de choses sont déjà en place pour intégrer la personne dans la citoyenneté. Il manque les droits de vote. Eh bien, je pense que ça serait intéressant, et je soutiens la proposition d'Anne Hidalgo, de faire en sorte que le droit de vote puisse aussi rejoindre l'ensemble de ces droits qui existent déjà. Je rappelle juste que dans un certain nombre de pays, on a déjà, pour des référendums locaux, mis en place le droit de vote à 16 ans, et ça marche très bien. Et un certain nombre d'études montrent que lorsque l'on commence un droit de vote à 16 ans, on est davantage accompagné par les parents dans la démarche de citoyenneté, et donc ça permet de lutter contre l'abstention à terme.
Ah oui. Voyons avec vous, Adeline Divou, dans le Factuel du matin, ce qui se passe à l'étranger sur le droit de vote, 16 ans ou 10 ou 18 ans ?
Alors, chez nos voisins européens, on vote globalement comme nous, dès 18 ans. Donc l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni. Petite spécificité pour l'Allemagne, 18 ans, sauf pour certains landers où le vote est permis dès 16 ans. Pareil en Estonie, 16 ans pour les élections locales.
Ouais.
En Slovénie, vote permis dès 16 ans, mais seulement si on a un travail. En Autriche et à Malte, c'est 16 ans, quelle que soit l'élection. 17 ans en Grèce, c'est le seul pays. Pour voter au sénatorial en Italie, il faut avoir au moins 25 ans, pour le reste c'est à 18 ans. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le vote est permis aussi dès 16 ans au Brésil et en Argentine. En revanche, il est obligatoire dès 18 ans, pas entre 16 et 18. Et du côté des États-Unis, du Canada, il faut attendre d'avoir 18 ans. C'est aussi le cas en Chine et au Japon.
Oui, et je crois qu'on veut réagir au 0826-300-300 sur le sujet. Qui est en ligne avec nous ? Bonjour. C'est ?
Allô, bonjour.
Oui. C'est Guillaume, c'est sur le vote, hein ?
C'est ça, non, oui.
Ah non, c'est sur le voile.
Oui. C'est sur la vidéo, surtout. Oui.
Ah, sur la vidéo. Ah, bah, on nous avait dit que c'était sur le vote. Bon, le vote à 16 ans.
Non, c'est sur la vidéo de Zemmour avec ce coup du voile, là.
D'accord.
Je vous voyais réagir dessus. Alors, je suis un peu en colère, excusez-moi, hein, mais...
Ouais.
Je suis un peu en colère contre l'activité Zemmour, là. On ne fait que parler de lui.
Ouais.
Hier encore, il y a eu un débat sur son avis sur le permis à points.
C'est vrai.
On réagissait dessus sur Sud Radio. Là, aujourd'hui, il y a une vidéo qui tourne. Vous réagissez dessus. Il faut savoir que cette personne-là n'est pas candidat. Hein, on se plaint tous qu'il est médiatique, mais vous tombez tous dans le panneau.
Vous trouvez, Guillaume, qu'on en fait beaucoup trop autour d'Éric Zemmour ?
Bien sûr, vous en faites beaucoup trop. C'est anormal. Il y a des personnes qui se présentent au présidentiel qui l'ont déjà médiatisé et qui parlent de leur programme, un vrai programme.
Ouais.
Voilà. Lui, il n'est pas du tout candidat, il ne s'est pas présenté candidat, mais par contre, vous ne faites que de parler de lui. Alors moi, ça m'énerve un petit peu, excusez-moi, surtout sur Sud Radio.
Ouais.
Et là, le coup de la vidéo, Patrick, il faudrait que vous demandiez à Alexis Poulain qui est cette personne qui était cette dame qui discutait avec Éric Zemmour. Parce que moi, j'ai son nom et son prénom devant moi, vous savez, et vous demanderez à Alexis Poulain, parce que je crois qu'il vient demain.
Ouais.
Alors, je ne vais pas m'avancer dans les détails, mais il a l'air bien au courant, puisque cette personne-là, apparemment, travaille pour le groupe Bolloré.
Non, elle a travaillé. C'est vrai, Guillaume, elle a travaillé il y a cinq ans, elle s'est expliquée. Non, mais on l'a dit ce matin,
on a dit.
Et Alexis Poulain, vous avez raison, et Guillaume, il sera là demain matin, et on lui demandera peut-être d'y revenir, même si il ne faut peut-être pas en faire non plus tout le temps, en permanence. Vous trouvez qu'on en fait beaucoup trop autour
Mais bien sûr qu'on en fait beaucoup trop.
Attendez, Amine Embarki, restez avec nous, Guillaume.
Bien sûr qu'on en fait beaucoup trop. Qu'est-ce qui justifie qu'un non-candidat ait un temps de parole aussi élevé? Rien. Ouais. À part le buzz, à part le divertissement, à part le spectacle. C'est tout ce qu'on dénonce, et ce qu'on dénonce ici.
Ouais. Lydia Guirous.
Peut-être qu'Éric Zemmour maîtrise beaucoup mieux les médias que d'autres candidats. Peut-être qu'il est moins usé que d'autres. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de bilan lui permet aussi d'être cette nouveauté avec un style qui est cash, parfois même clash, direct, que les Français ont envie en fait d'entendre, de voir. En tout cas, il suscite la curiosité quand d'autres provoque plutôt le désintérêt des Français. Ouais. Donc, que les médias commentent ce que Éric Zemmour fait et là où Éric Zemmour va, c'est parce qu'il le construit bien et que les autres ne font pas suffisamment le job. C'est aussi de cette manière-là qu'on peut voir les choses.
On a parlé ce matin, certes, on a passé plus de temps sur cette vidéo que sur le droit de vote à 16 ans, cette proposition.
Si
oui, on va marquer une pause, vous y revenez, et puis on va parler aussi du nucléaire, tout de même. Allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, on poursuit les grands débats du matin et on accueille Célie Massini. Bonjour, vous êtes interne en psychiatrie et vous avez travaillé sur les émotions du dérèglement climatique. Tout ce que, évidemment, tout l'impact psychologique que ça peut avoir, un peu comme le Covid, évidemment, là, depuis 2 ans, vous avez été en formation accélérée, si je puis dire. Juste avant ça, on poursuit quand même de quelques mots sur le droit de vote à 16 ans. Vous avez défendu vos arguments tout à l'heure pour abaisser ce droit de vote à 16 ans. Vous avez vu que dans la plupart quand même des pays en fait à l'étranger, ça reste 18 ans même s'il y en a un petit peu en Amérique latine à 16 ans ou alors sur des élections locales. Lydia Guirous, vous, sur cette proposition?
Moi, je trouve que c'est une proposition qui est purement électoraliste, à défaut de réussir à convaincre les électeurs qui ont déjà le droit de vote. On essaye de séduire et de flatter une partie de la jeunesse en leur proposant d'avoir le droit de vote un peu plus tôt, au moment où cette jeunesse est de moins en moins formée, où on sait qu'elle comprend de moins en moins bien et elle adhère de moins en moins aux valeurs de la République. Donc je trouve que c'est purement électoraliste. Comme la gauche n'a plus le peuple qui vote pour elle, elle s'était trouvé un peuple de... Juste pour terminer, elle s'était trouvé un peuple de substitution en poussant le droit de vote des étrangers aux élections locales. Maintenant, elle va y chercher des jeunes à partir de 16 ans pour les faire voter. En fait, c'est une proposition de désespoir électoral parce qu'ils n'ont plus de programme, parce qu'ils ne sont plus en phase avec la réalité du pays, parce qu'il n'y a plus d'incarnation charismatique. Et donc, c'est une façon d'essayer de sauver ce qui peut l'être.
Enfin, dire que c'est électoraliste, une mesure auprès de gens qui n'ont pas le droit de vote, c'est tout sauf électoraliste. C'est pas un argument. Et c'est dommage que vous ne répondiez pas sur le fond. Il y a plusieurs pays dans le monde, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui défendre la proposition de mesure à 16 ans. La question, et d'ailleurs, on avait le même débat lorsqu'on est passé de 21 à 18 ans. On a constaté qu'à 18 ans, il y avait déjà une prise de conscience de la citoyenneté, une prise de conscience de l'intégration de la personne dans la société. Et donc, là, on fait le même constat. Oui, à 16 ans, on a un certain nombre de droits. Oui, on peut les exercer, que ce soit un mandat politique, un mandat syndical. On parlait de la majorité pelle à l'emparti. Il n'y a que le droit de vote. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on aligne l'ensemble de ces droits avec le droit de vote.
On a des réactions au 0826-300-300. Alors, on va vous donner la parole, pas à tout le monde, bien sûr, mais quand même, sur ce sujet, c'est Ludovic qui est avec nous, Ludovic.
Oui, bonsoir. Bonjour, pardon.
Bonjour, oui. Ah bah oui, bonsoir, si vous voulez, mais bon.
la journée finie pour moi.
Bon, sur le droit de vote à 16 ans, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les adolescents sont un peu déconnectés du monde, par les réseaux sociaux, moins présence dans le monde, sans oublier la partie civique de l'enseignement national que je trouve très honnêtement très léger. Ouais. Je comprends le principe de vouloir voter à 16 ans et l'implication. Je doute pas qu'il y ait beaucoup d'adolescents qui soient impliqués de façon comme spécifiée au niveau associatif, syndical, etc. Par contre, je pense que c'est un peu de certaines subtilités qui, même à 18 ans, sont un peu compliquées. Monsieur vient de dire
même à 50.
Tout à fait, même plus tard, voilà. Les jeux politiques sont des choses qu'on n'a pas trop la maîtrise, je crois, et en tant que citoyen. Et monsieur disait, par exemple, on a eu le même problème de 21 ans, à 18 ans, et je suis tout à fait en accord avec lui. Toutefois, on est dans une autre culture et une autre génération qui a évolué depuis.
Ouais. Bon, en tout cas, on comprend vos arguments. Merci en tout cas pour ce sujet. On va donc, Célie Massini, rebonjour. Les émotions du dérèglement climatique. Alors, il y a à tel point en fait un impact sur notre psychologie, de ce que l'on risque, des impacts psychologiques climatiques.
Oui, en fait, ce que les études montrent, et c'est un champ de recherche qui est encore jeune, c'est que le dérèglement climatique a un impact sur notre bien-être psychique par deux voies. Une voie par devers nous, si on peut le dire, c'est-à-dire que qu'on soit conscient ou non de la réalité du dérèglement climatique, on peut avoir des conséquences sur notre bien-être mental liées à ces impacts, ouais, et des conséquences de notre connaissance du dérèglement climatique et de ce qu'on en anticipe.
Ouais. Ce sont principalement les images, quoi. Peut-être, non, qui frappent canicule, ouragan, tsunami, inondation, feu de forêt, c'est ça, non?
Alors, ça peut être les images, ça peut être les études, ça peut être tout un tas de choses, et ça peut être quand on en est soi-même victime.
Ouais.
Hein, donc, je pense qu'il faut bien différencier ces deux aspects-là. C'est-à-dire que, ben, quand on est soi-même victime d'une canicule, par exemple, eh ben, il va y avoir plus de décompensations psychiatriques, donc plus d'admissions aux urgences pour de la souffrance.
Mais comment on le ressent en fait? Est-ce que ce sont des gens qui tombent dans la dépression? Est-ce qu'ils pleurent? Est-ce qu'ils ont des changements de comportement? Est-ce que comment on le voit? Comment on s'en rend compte?
Alors ça dépend de par quel biais on est touché. Par rapport à ce qui a trait à la connaissance, ça va être plutôt des symptômes anxieux.
D'accord.
Donc,
montée de stress, par
voilà,
exemple.
Voilà, des attaques de panique, de la peur, des difficultés à se projeter dans l'avenir, etc. Mais par exemple, si on est victime d'une catastrophe naturelle, bah là, on va pouvoir avoir dépression, état de stress aigu, état de stress post-traumatique, et tout un florilège, en fait, de pathologies psychiatriques. Il n'y a pas de... C'est pas restreint, en fait. On peut avoir toutes les manifestations possibles.
C'est l'éco-anxiété, hein, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété, hein, plus ou moins évidemment, qui est assez développée. Vous la ressentez, vous? Alors, Amine Embarki et Lydia Guirous, en deux mots, donc sur les dérèglements climatiques, comme aussi aux éléments dans l'actualité qui bien souvent nous bousculent et nous bouleversent. Je pense par exemple à la crise du Covid, quoi.
Non, bien sûr, on ne peut pas être indifférent au fait qu'on ne sait pas quel sera le monde dans 20, 30 ans. C'est une certitude qu'avaient nos prédécesseurs, les générations précédentes, savaient à peu près quel monde serait dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis surtout, ils pensaient que le monde serait meilleur.
Oui, c'est ça.
Voilà, le monde serait meilleur, qu'il y aurait du progrès. Là, en fait, on est face à une situation où on ne sait pas si dans 15, 20 ans, le monde sera meilleur ou là, bien pire. Et ça provoque une anxiété très importante qu'on voit bien chez les jeunes, qui se traduit notamment dans les manifestations récurrentes qu'il y a de jeunes pour faire en sorte qu'on lutte efficacement et réellement contre le dérèglement climatique. Et c'est quelque chose qui maintenant pénètre l'ensemble des générations. Oui, c'est quelque chose qui est...
Lydia Guirous ?
Oui, cette éco-anxiété, elle s'illustre aussi par cette étude qui a été publiée assez récemment, qui, je crois, il me semble que c'est 40% des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et c'est une étude qui a été faite dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est quand même un changement civilisationnel que de voir, alors que normalement, on veut faire des enfants, on veut fonder sa famille, c'est une certaine prolongation aussi de soi et de la vie. Là, vous avez des jeunes, parfois, qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire les hommes, une vasectomie, des femmes qui veulent vraiment plus du tout avoir d'enfants et qui font des opérations chirurgicales pour ça. Donc là, l'éco-anxiété, elle est extrêmement présente auprès de cette jeune génération. Et je crains que ce soit encore plus présent chez les plus jeunes qui ont fait une entrée à l'école avec cette crise de la Covid, avec des professeurs qui sont masqués, avec une première sociabilisation où on vous disait que l'autre pouvait être une menace potentielle pour votre santé, avec la transmission des microbes, les fameux gestes barrières qui étaient comme une barrière entre les individus. quel impact ça peut avoir sur les plus jeunes qui ont aujourd'hui 5-6 ans, qui découvrent l'école, les amis, etc. Oui.
Allez, on va voir ça dans un instant avec vous, Céline Massini, pour ce livre, Les émotions du dérèglement climatique, avec le professeur Pellissolo, avec cet ouvrage. Et c'est vrai qu'il y a un discours anxiogène dans la société qui conduit probablement à augmenter le stress et l'angoisse, alors qu'il y a 30 ans, enfin il y a 40 ans, 50 ans, fort monté à 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire qu'on sortait de moments on sortait de moments terribles. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre, on n'avait pas à manger, en fait on avait beaucoup de mal, on l'a oublié en fait ça. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'était extrêmement difficile quoi. Et ensuite, il y a eu des années
glorieuses.
Oui, il y a eu il y a eu des périodes plus fastes, même si beaucoup des anciens, on s'en souvient quand même, disaient attention, le progrès technique, où est-ce que ça peut nous mener, ça améliore parfois le quotidien, mais ça peut aussi détruire notre planète. Ils avaient, on ne voulait pas les écouter, en fait, à l'époque. Hein. On aurait dû peut-être un petit peu les entendre. On continue avec vous dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h37, merci d'être avec nous. Céline Massini est toujours avec nous, auteure de ce livre, Les émotions du dérèglement climatique, aux éditions Flammarion.
L'impact des catastrophes écologiques sur notre comportement, sur notre vision, en fait, un peu de l'avenir, globalement, sur notre bien-être, en fait. Est-ce qu'il y a des solutions pour y faire face, justement, à ça?
Ben, c'est justement là-dessus, en fait, tout ce qui va favoriser notre bien-être psychique, donc va pouvoir nous aider. Là, on est sur des conseils vraiment de base, hein, et qui sont vrais pour tous les troubles psychiques, quels qu'ils soient. Donc, une alimentation équilibrée, un sommeil préservé. Une hygiène un peu psychique, hein, avec des temps de repos, loin des informations anxiogènes, parce que c'est vrai que d'être plongé tout le temps dans ces informations, ça a un impact sur notre capacité à y faire face.
Oui, mais régulièrement, on est culpabilisé un petit peu partout, dans la rue, sur des affiches.
Bien sûr.
Donc ça contribue forcément à cette anxiété.
Bien sûr, et c'est un des messages du livre, de quitter un peu cette place d'hyper-responsabilisation individuelle, parce que effectivement la mobilisation individuelle, c'est ce qui a permis toutes les avancées qu'on a connues dans le domaine de l'écologie. Ça a un impact qui est important, c'est-à-dire que si on mettait tous en place des stratégies à notre échelle, on a quand même un impact sur 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste que 20%. Et surtout, on n'a pas la main sur tout. C'est-à-dire que culpabiliser les gens parce qu'ils prennent leur voiture, s'il n'y a pas d'infrastructure de transport en commun, pas d'alternative, c'est voué à l'échec et c'est parler dans le vide, parce qu'en fait, on peut pas demander aux gens de faire des choses qui n'existent pas.
Donc, ils n'ont pas la solution.
Oui, c'est ça. Ou alors, des voitures, mais des voitures plus propres, quoi, en fait.
Des voitures plus propres, mais qui aujourd'hui ont un coût.
Qui vont polluer moins que des transports en commun qui ne sont pas forcément propres, quoi. Et où il y a en fait des problèmes de... Parce qu'il y a beaucoup de gens, psychologiquement, qui ont du mal à être dans des transports en commun.
Oui.
Quoi, l'angoisse, en fait, etc.
Bien sûr.
Vous devez le voir, quoi, bien sûr.
En parle d'ailleurs dans le livre de l'impact des transports et de passer beaucoup de temps dans les transports chaque jour.
Oui, c'est une angoisse. Dans ces conditions, les gens, quand ils viennent vous voir, quand ils viennent consulter, ils se disent quoi ? Je ne pourrais pas améliorer ma vie, en fait, demain. Ça va être de plus en plus compliqué. C'est ce sentiment, en fait.
C'est ce sentiment-là. C'est une difficulté à se projeter dans l'avenir, parce que c'est vrai que les projections actuelles ne vont pas vers une amélioration des choses, mais plutôt une péjoration. Et donc là, on est déjà dans une stratégie de limitation des risques plutôt que dans une stratégie d'amélioration du quotidien de chacun.
Dans des foyers, quand vous avez vu que la jeune génération s'engage beaucoup pour le climat, il y a une culpabilisation des parents, des boomers, en disant c'est de votre faute. Comment travailler justement avec ces enfants et comment renouer le lien ?
C'est vrai que c'est tout l'enjeu aussi des prises de conscience actuelles, mais je crois que ce dialogue, il est restauré pour une part, puisqu'il y a aussi une prise de conscience des autres générations, en fait. Donc on a des chiffres pour la jeunesse parce qu'il y a eu cette étude qui a été publiée dans le Lancet Planetary Health en septembre sur les 16-25 ans. Donc on a des chiffres pour ces 16-25 ans, hein. Donc quand même 77% disaient qu'ils avaient des pensées négatives du type l'avenir est terrorisant, donc des mots qui sont quand même très forts et avec un impact sur leur vie quotidienne. Mais en fait, dans les autres générations, donc les générations de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents, il y a cette inquiétude, donc une inquiétude qui est plutôt tournée vers cette jeunesse et vers l'avenir de leurs descendants, en disant, ben, dans quel monde on les laisse,
ouais.
Et quelles difficultés vont-ils avoir à affronter dans l'état actuel des choses.
Est-ce que chez les jeunes, vous avez des jeunes qui viennent en consultation aussi, ou beaucoup plus, quelles sont les catégories de population qui viennent, ou des gens plus anciens en fait, quoi?
Je dirais que, en tout cas, moi, dans ma pratique personnelle, j'ai plus rencontré des jeunes, donc jeunes adolescents, mais aussi jeunes adultes. Voilà, ce qui a été montré dans pas mal d'études, et c'est ce qu'évoquait une de vos collègues, c'est le fait que, ben, pour les jeunes générations, ils ont grandi avec l'idée que le dérèglement climatique était quelque chose d'actuel,
et d'impactant
et qui allait avoir une menace pour leur quotidien. Ouais. Et avec des images aussi des catastrophes.
Qu'on relaie plus facilement d'ailleurs aussi aujourd'hui, quoi.
Bien sûr.
Qu'auparavant, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Et du coup, forcément, c'est difficile de se construire en tant qu'individu.
Et est-ce qu'eux-mêmes sont prêts à renoncer à beaucoup de choses? Est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à renoncer aux réseaux sociaux où on sait que ça demande beaucoup d'énergie? Est-ce qu'ils sont prêts à renoncer, en fait, au voyage? Est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à des conforts de vie?
Alors, ça c'est compliqué parce que, en fait, il faudrait des données. C'est-à-dire que moi je peux parler de mon point de vue et donc c'est-à-dire de ce que j'en perçois, mais je suis pas un institut de sondage.
Bien sûr. Non, mais puisque vous voulez.
Mais du coup, il y a pas ces données. Mais en tout cas, ce qu'on voit, en tout cas dans les populations qui prennent la parole sur ces sujets, etc., c'est qu'il y a un engagement personnel qui est fort et qui souvent est aussi à l'origine d'inquiétudes, mais qui va pousser à effectivement ne plus prendre l'avion. Ne plus faire telle ou telle activité parce que ça a des conséquences, changer son mode de vie de façon radicale, changer sa vie professionnelle de façon radicale.
Ouais.
On a quand même vu là dans les écoles de commerce, c'est quelque chose qui était impensable il y a 10 ans. Aujourd'hui, dans les écoles de commerce, du fait de la demande des étudiants, le climat, c'est un sujet, c'est un sujet de cours, et c'est quelque chose qui est demandé aux entreprises d'avoir un engagement sur ce versant-là et de changer les choses, et avec des entrepreneurs qui envisagent leur métier et leur contribution à la société de façon totalement différente de ce qu'elle pouvait être.
En tenant compte des enjeux climatiques.
C'est ça.
Voilà.
Merci Célie Massini. Les émotions du dérèglement climatique, l'impact des catastrophes d'anquidés écologiques sur notre bien-être. C'est aux éditions Flammarion. Et comment y faire face surtout,
Bien
c'est sûr,
ça.
C'est ça. Il y a
toutes les recettes. C'est une
méthode. Merci. Sur tout ça. Dans un instant, Cécile, nous allons continuer.
Le combat d'une mère pour sortir son fils de la drogue, on en parlera dans quelques instants. Elle s'appelle Rosine Fèvre, elle est journaliste. Et ce livre, auteur de ce livre, Les battements du cœur du colibri aux éditions du Rocher, à suivre dans un instant. N'hésitez pas à nous en parler, 0826 300 300, vous attend au standard.